Je vais raconter la Bible alors, comme dit Matthée. Merci Seigneur pour ce temps. Je peux vous assurer qu'il y a la présence de Dieu ce matin au milieu de nous. Depuis le début du culte jusqu'à présent, j'espère que ça va durer, mais il y a la présence de Dieu. Le Seigneur est au milieu de nous, mais c'est pas simplement des phrases que l'on connaît par cœur. On veut le dire de tout notre cœur. On est assemblés en son nom et il est au milieu de ses disciples, au milieu de ses enfants. Et ce matin, j'ai envie de vous dire, venez, mes amis, et montons à la montagne de l'Éternel, la maison de Dieu, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi de l'Éternel et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et j'ai envie qu'on monte encore plus haut ce matin, qu'on aille dans la montagne de Dieu, et que là, on se délecte de sa présence. Mais surtout, qu'on soit à l'écoute de sa voix, qu'on écoute notre Dieu nous parler. Ce matin, j'étais aussi attiré par ce verset du psaume 73, et au verset 28, où il est dit, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place en toi mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Alors merci Seigneur pour ta présence. On revient de 7, alors il y avait les Bussières, il y avait les Klein et il y avait les Rindel. On a passé quelques jours là-bas, à 7, avec un peu de soleil, pas mal de pluie aussi, mais on était au bord de la mer, nous, on était au bord de la mer, nous. Et c'est vrai que le thème nous a touchés, Dieu fait toutes choses toujours nouvelles. Et il y a quelques temps, je me rappelle qu'Hachim m'avait demandé un matin de présider le moment de partage avec l'équipe apostolique. Et ce qui est venu sur mon cœur, c'est ce passage de Acte 9. Vous savez, vous connaissez ce passage, peut-être pour l'avoir lu et relu. C'est le passage où Saul de Tarse, qui était un homme qui connaissait le Pentateuque, qui le connaissait même par cœur, connaissait donc la loi de Dieu. Il a été élevé au pied de Gamaliel, nous dit la parole de Dieu. Donc un homme érudit, un homme qui était intelligent. Il avait quoi dans les mains? Il avait des lettres de menace et il était venu pour combattre les chrétiens et combattre cette nouvelle idéologie, ce nouveau courant qu'on appellera plus tard le christianisme. Et il était sur le chemin de Damas. Et vous connaissez cette histoire? Tout à coup, alors que lui était persuadé faire la volonté de Dieu, il était persuadé que ce qu'il était en train de faire plaisait à son Dieu, ce Dieu qu'il connaissait, qu'il adorait, ce Dieu qu'il suivait depuis son enfance et jusqu'à présent. Eh bien, tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? Une grande lumière survint sur ce passage et la Bible nous dit que Saul a été terrassé, certainement qu'il est tombé de son cheval et il était par terre. Et il croulait sous cette puissante lumière et il se demandait ce qui se passait. Et tout à coup, il n'a plus rien vu, il est devenu aveugle. Et il y a une voix qui est sortie de là et qui est dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi est-ce que tu es en train de faire, est en train de me combattre, moi ton Dieu? Je suis Jésus que tu persécutes et il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Et la parole de Dieu nous dit que là, et seulement là, Saul de Tarse se mit à dire une phrase qui est vraiment importante, et je relève cette phrase pour vous, « Seigneur, que faut-il que je fasse ?» Et tout à coup, Dieu lui dit, « Tu vas aller à tel endroit, et un homme du nom d'Ananias va prier pour toi afin que tu recouvres la vue, et il t'enseignera tout ce que je veux te dire. » Et là, il y a une nouvelle direction qui l'attend, alors qu'il était décidé à persécuter ce nouveau courant qui l'irritait, Dieu lui dit, tu es en train de faire des choses qui me font mal, et donc je t'arrête sur le chemin. Ce n'est pas mon plan, mais j'ai un autre plan pour toi. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'on est persuadé qu'on est sur une bonne voie, Dieu n'est pas celui qui nous condamne. Dieu n'est pas celui qui nous reproche. Il nous remet sur le droit chemin et il nous dit, voici le chemin, maintenant marche-y, mais je serai ta bénédiction, je marcherai devant toi, je serai ton guide, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. connaissez le psaume 32, verset 8. Je t'enseignerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Et notre Dieu veut nous parler ce matin. Et il nous a déjà parlé. Ça fait, je bénis Dieu pour la louange. Merci, nos amis de la louange. Merci pour Mathé, pour cette présentation. Merci pour Anne, pour ce qu'elle a partagé. Merci pour chacun de vous, pour vos prières, pour tout ce que vous avez partagé devant Dieu. Mais je voudrais vous entraîner sur un autre passage qui nous montre que Dieu a le regard sur nous ce matin. Vous êtes venus dans la maison de Dieu, vous avez fait cet effort, vous avez fait le trajet, vous êtes ici dans ce lieu, mais Dieu vous attendait, vous avez donné rendez-vous. Et si vous êtes là, c'est que quelque part Dieu veut parler au plus profond de vous-même et il veut vous enseigner quelque chose ce matin. Pas moi, mais c'est Dieu. C'est lui qui parle, c'est pas un homme. Moi, ce que je vais dire, c'est complètement imparfait. Et retenez simplement ce que Dieu dit au travers de mes paroles. Voici ce que dira Dieu, donc, dans Acte 22. Et c'est Paul qui témoigne. Paul est en train de parler à tous ceux qui sont ses contradicteurs, parce qu'il va témoigner plus tard de ce qui lui est arrivé sur le chemin de Damas. Et au chapitre 22, versets 14 et 15, il dit, « Le Dieu de nos pères... » Et il parle de lui, t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de tout ce que tu as vu et entendu. Et au verset 21, alors il me dit, va et je t'enverrai au loin vers les nations. Amen. Voilà le plan de Dieu pour Saul de Tarse, qui plus tard sera appelé l'apôtre Paul. Ils lui disent, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et vous savez que Paul a pris la direction que Dieu lui avait indiquée. Et la Bible nous dit que quand les chrétiens ont vu Paul se rapprocher d'eux et commencer à vivre au milieu d'eux, ils se sont dit « c'est un piège, il va nous piéger, parce qu'on le connaît, il nous persécute, il veut notre mort, il veut notre destruction, il veut notre disparition ». Et on les a rassurés, ces gens-là, en disant « non, 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 ce Paul dont vous parlez, ce Saul dont vous parlez, a été transformé en un autre homme, il a rencontré celui qui est le Christ et le Seigneur. Il a entendu sa voix et cette voix lui a dit « marche dans un nouveau commencement, dans une nouvelle direction ». Et moi je bénis Dieu de ce que là on a vraiment une image d'une transformation, on a une image d'une nouvelle direction, d'un nouveau défi que le Seigneur lui lance. Et lui il est là, il entend la voix de Dieu, mais il craint Dieu et il a été terrassé. Et Dieu lui a dit, mais maintenant je vais t'aider à recouvrer la vue, mais écoute ce que j'ai à te dire. Et depuis le commencement, mes amis, il en a été ainsi. Quand l'homme a chuté, il ne s'est pas mis en quête de Dieu pour sa délivrance, mais Dieu a cherché l'homme. Dans le jardin d'Éden, Dieu a cherché l'homme. Adam, où es-tu? Où es-tu, Adam? Et moi, je me suis posé la question, mais pourquoi pose-t-il cette question? Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il savait où était Adam. Il savait l'endroit où il était. Mais Adam avait perdu sa communion avec Dieu. Adam s'était laissé séduire et son péché l'a coupé de sa relation avec Dieu. Et le soir dans le jardin, comme il le faisait d'habitude, Dieu cherchait l'homme pour le rencontrer, pour passer du temps avec lui. Adam, où es-tu? Adam avait coupé le fil et n'était plus en relation avec celui qui l'avait créé. Et ça, c'est dramatique. Chacun de vous qui êtes assis ce matin, vous êtes sauvés par le sang de Jésus. Vous ne dites pas amen? Est-ce que vous êtes heureux d'être sauvés? Est-ce que vous êtes sauvés? Vous n'êtes pas sauvés parce que vous avez cherché Dieu, mais vous êtes sauvés parce que c'est Dieu qui vous a cherché. Parce que c'est lui qui vous a rencontré. Et en ce jour mémorable, il y a plus de 2000 ans, l'apôtre Paul, qui était à Jérusalem, donc, il a fait ce récit à ceux qui étaient complètement hostiles. Et lui qui a lutté contre l'Église de Dieu, qui a été l'ennemi de Jésus-Christ, qui avait condamné tous ceux qui étaient là, en rapport avec ce qu'il appellera plus tard le christianisme, Saul, dans son plan, il avait son plan, mais Dieu avait son plan. Et je vous rejoins dans ce que dit Ésaïe 55, Bien souvent, nous avons nos pensées. Bien souvent, nous traçons notre voie. Mais voici ce que dira Ésaïe 55, verset 8. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent, arrosent, fécondent la terre et font germer les plantes. Ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli ce pourquoi elle est envoyée et accompli mes desseins. Et vous savez, je pense que moi, si j'avais été dans la foule qui avait crié « Crucifie, crucifie », j'aurais aussi crié « Comme tout le monde, crucifie ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais j'aurais certainement fait partie de cette foule qui avait été soulevée par tous ceux qui étaient là, qui étaient contre Jésus et qui voulaient vraiment que Jésus soit crucifié sur la croix. Mais je bénis Dieu de ce qu'un jour il m'a cherché. Je bénis Dieu de ce qu'un jour il m'a rencontré et je bénis Dieu de ce qu'un jour j'ai pu entendre sa voix et ce jour-là, je me suis senti tellement sale, tellement pécheur, tellement loin de lui que la seule chose qui comptait pour moi, c'est de lui demander grâce et de venir à ses pieds en disant « Seigneur, j'ai besoin de toi, je t'ouvre mon cœur, je te reçois comme mon sauveur personnel, viens, pardonne mes péchés ». Pardonne et purifie-moi par ton sang précieux. Je viens au pied de ta croix et je te reçois comme mon sauveur et comme le Seigneur de ma vie. Et ce jour-là, mes amis, des tonnes sont parties de mes épaules. J'ai reçu le salut, mais en même temps, j'ai reçu une joie dans mon cœur. J'étais sauvé, mon nom était inscrit dans le livre de vie. Quelle grâce, mes amis! On oublie souvent ce jour où on s'est donné à Jésus. Mais ce matin, je voudrais vous dire, je suis heureux un jour publiquement, d'avoir quitté ma chaise, d'avoir levé ma main, d'avoir quitté ma chaise devant mes parents. Je voulais pas leur montrer que je me tournais vers Jésus. On a son petit orgueil, n'est-ce pas? Et puis, je me suis avancé, j'étais l'un des premiers devant. J'ai pleuré sur mes péchés. Mais ce jour-là, le regard de Dieu, le regard d'amour de mon Dieu, m'a transformé. Il me pardonnait. Il me purifiait par son sang et il m'appelait son enfant. J'étais enfant de Dieu et je le suis. Et vous l'êtes, mes amis. Nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes. Alors on ne peut pas comprendre son omnipotence, le fait que Dieu soit vraiment tout puissant et qu'il peut tout. On ne peut comprendre son omniscience, à savoir qu'il connaît tout. Il connaît notre passé, il connaît notre présent, il connaît notre futur. Dieu connaît tout, il connaît le mot, mais comment le prononcer? Il est omnipotent, il est omniscient, il sait absolument tout. Mais il est aussi omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout, il est partout à la fois, et Dieu est présent partout. David a dit, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà, quand je veux m'en aller à tel endroit, tu m'as devancé, tu es déjà là et tu m'attends. Waouh ! Tout ça, ça nous dépasse. Alors mes amis, on peut essayer d'effacer Dieu de notre pensée. On peut essayer d'enlever toute mention de Dieu dans les livres scolaires et le remplacer par l'évolution. On peut nous efforcer de l'oublier, d'agir et de nous comporter comme si Dieu n'existait pas. Mais Dieu est là partout, Dieu est là présent, Dieu est là à nos côtés, Dieu est là quand on dort, Dieu est là quand on se réveille, Dieu est là quand on chemine dans notre vie. Et je ne sais pas ce qui se passe au ciel, mais Dieu fait des choix. Et Dieu a dit à Ananias, dis à Paul ce que je l'ai destiné. Et ce matin, je voudrais simplement vous dire que le titre de mon message, c'est « Dieu t'a choisi, Dieu t'a destiné ». Dieu a des projets de vie et non de malheur. Tu seras appelé la tête et non la queue, nous dit la parole de Dieu. Et ainsi, il s'adressait à Paul, et Paul qui était son nom romain, et laissez-moi vous dire ceci, tous ce matin qui m'entendez, vous ne pouvez même pas saisir l'importance de ce que je viens de dire, Dieu vous a choisi. Oh Jésus, je t'aime. Est-ce qu'on comprend cela ce matin? Moi, j'ai envie de dire alléluia, j'ai envie de crier gloire à Dieu. Il m'a choisi, il t'a choisi, il nous a choisi. Merci Seigneur parce que nous sommes au comble de la joie. Il nous a ouvert ses bras. Et comme le disait Mathieu tout à l'heure, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Nous avons été choisis, nous avons été choisis, nous avons été choisis. Amen. Et à tous ceux qui ont voulu nous arrêter, j'ai envie de leur dire qu'on ne peut pas arrêter celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement et qui vit dans notre cœur. J'acclame Jésus et je proclame en étant à ses pieds, je m'incline et je dis Seigneur, je n'ai pas honte de toi. Je n'ai pas honte de ce que tu as fait. Tu m'as regardé, tu m'as pris tel que j'étais. Tu n'as fait aucun cas de qui j'étais réellement, pécheur devant toi. Mais ce qui est formidable, et ça je ne comprends pas, tu m'as choisi. Et Dieu merci, je ne m'attends pas à revenir dans ce monde sous la forme d'un singe ou de toute autre chose. Je remercie Dieu de ce que mes ancêtres ne sont pas en train de se promener sous la forme d'un éléphant ou d'une vache, mais je remercie Dieu car mon père naturel, mon papa, se promène dans les rues avec Jésus et il confesse que Jésus est son Seigneur. Le Dieu de nos pères t'a destiné. Alléluia au Seigneur, quelle joie, il nous a destinés. Dieu t'a destiné, ça veut dire que tu vas changer de direction. Alors merci Seigneur pour ceux qui ce matin sont dans leur fauteuil, en train de regarder la télé, ou peut-être en train de regarder les vidéos du pape qui passait à Marseille hier. Je ne sais pas, mais ils sont en train peut-être de se préparer à regarder des matchs de rugby ou de football, en sirotant leur bière. Mais un jour Dieu les rencontrera. Je bénis Dieu pour les femmes qui peut-être prient depuis des années pour leur mari en disant « Seigneur, transforme mon homme ». Je raconterai pas l'histoire. Oui, parce qu'un jour, dans une église, il y a une femme qui a apporté son mari dans une réunion de prière pour la première fois. Et puis dans sa prière, elle dit « Seigneur, tue mon vieil homme ». Le gars n'est plus jamais revenu à la réunion. Alors Seigneur, merci pour l'exaucement de ces prières que les femmes font honter pour leur mari. Vraiment. Ananias a dit à Saul, j'aime bien ce nom Paul, hein. C'est pourquoi Dieu t'a destiné, Dieu t'a choisi. Dieu nous choisit, mes amis, pour une raison particulière. Il n'y a rien au ciel qui se fasse par pur hasard. Tout est ordonné au ciel et dans la gloire, le gouvernement de Dieu est parfait. Il a dit à Paul, pour commencer, Dieu t'a destiné à connaître sa volonté. Acte 22, verset 14, la deuxième partie. On pourrait se poser des questions, mais quel est mon avenir? Quels sont vos projets pour l'avenir? Ce que je veux connaître, mes amis, c'est pas ce que moi j'ai dans mon cœur comme projet, ce sont les projets que Dieu a pour moi, pour l'avenir. Je n'ai rien reçu de ce que j'ai demandé, mais Seigneur, j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin. Est-ce que vous avez remarqué que parfois, on demande à Dieu certaines choses et l'exaucement n'est pas tout à fait ce qu'on attendait? Est-ce que vous avez remarqué cela? J'ai demandé la force et la vie m'a donné des difficultés pour me rendre fort. J'ai demandé la sagesse et la vie m'a donné des problèmes à résoudre. J'ai demandé la prospérité et la vie m'a donné un cerveau et des muscles pour travailler. J'ai demandé de pouvoir voler et la vie m'a donné des obstacles à surmonter. Voler dans le sens avec des ailes. Hein. J'ai demandé l'amour et la vie m'a donné des gens à aider dans leurs problèmes. J'ai demandé des faveurs et la vie m'a donné des potentialités. C'est pourquoi je voudrais dire ce matin, je crois que dans nos vies, il y a quelque chose que le Seigneur veut transformer. Quelque chose qui fait que nous nous attendons à lui plus que jamais. Et nous disons, on ne pourrait pas par soi-même nous transformer, mais lui peut nous transformer. Et peut-être qu'il nous fait passer par des moments, moi je pense souvent à Huguette. Pourquoi je pense à Huguette? Parce qu'elle souffre dans son corps. Mais vous savez ce que je vois en esprit? C'est Huguette en train de danser comme jamais elle a dansé. Pourquoi ? Parce que Dieu a des projets de vie pour elle. Il a des projets de libération, de délivrance, mais pendant tout ce temps où elle souffre, elle passe par un moment étroit, un moment difficile, mais au-delà de cela, il faut qu'elle sorte un jour de ce moment étroit et difficile et qu'elle puisse dire, maintenant ça y est, le chemin s'élargit devant moi, je n'ai plus ces douleurs et je glorifie mon Dieu de ce qu'il m'a touché et de ce qu'il m'a libéré. Moi, j'ai en tête cette histoire du papillon qui est dans son cocon et un jour apparut un petit trou dans le cocon. Et vous connaissez l'histoire de cet homme qui passa par là et qui s'arrêta de longues heures à observer ce papillon qui s'efforçait de sortir de son petit trou. Il était coincé dedans, il voulait en sortir. Moi aussi, je raconte des histoires, Mathé. Et après un long moment, c'était comme si le papillon avait abandonné. Il était vraiment épuisé. On aurait cru qu'il allait mourir. Alors le trou demeurait toujours aussi petit. On aurait cru que le papillon avait fait tout ce qu'il pouvait faire. Et là, maintenant, il allait mourir. Alors, l'homme décida de l'aider. Et il prit un canif et il ouvrit le cocon. Et le papillon sortit aussitôt. Mais son corps était maigre, engourdi, ses ailes étaient peu développées, elles bougeaient à peine, et l'homme continua à observer, pensant que, d'un moment à l'autre, les ailes du papillon s'ouvriraient et seraient capables de supporter le corps du papillon pour qu'il prenne son envol. Mais rien, le papillon resta le reste de son existence à se traîner par terre, avec un corps maigre, des ailes rabougries, jamais il n'a pu voler. Pourquoi ? Parce que l'homme, avec son geste de gentillesse, son intention d'aider, toutes les personnes qui t'aident à t'en sortir n'ont pas forcément une intention qui te fera du bien. Et je crois que quand quelqu'un passe par l'épreuve, par la difficulté, bien sûr on peut avoir de la compassion pour cette personne, mais laissons le Seigneur faire son travail. Laissons le Seigneur nous faire aller jusqu'au bout de la situation. Parce qu'au-delà de ce problème, la gloire de Dieu va se manifester. Son nom va être glorifié. Et je crois que mon Dieu, plus que jamais, je crois que mon Dieu est vivant. Je crois que mon Dieu a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et des mains pour bénir, et des pieds pour se déplacer et venir nous toucher, nous rencontrer. Il est au milieu de nous ce matin, il parle à nos cœurs, mais il veut nous dire... Je connais ta situation. Je sais que tu passes par l'épreuve parce que je permets cela dans ta vie. Mais mon projet n'est pas que tu meurs dans l'épreuve, que tu croupisses dans les problèmes. Mon projet, c'est de te rendre forte, ma sœur, de te rendre fort, mon frère, et de faire en sorte que cette leçon que je te donne, tu puisses non seulement en sortir toi-même victorieux, mais que tu puisses témoigner aux autres qui passeraient par les mêmes choses, que je suis vivant et que je puis tout et que je suis celui qui fortifie celui qui s'attend à moi. Mon Jésus est vivant. Alors quand tu es dans l'épreuve, c'est le passage par le trou de la transformation qui fait que tu ressors en étant une personne changée, une personne dont Dieu veut nous voir changer. Et dans ces mois qui viennent, Dieu veut nous changer. Dieu veut nous transformer et tout au long de nos vies, Dieu veut nous changer pour qu'on ressemble à Jésus. Notre bonheur, c'est Jésus. Notre épanouissement, ce n'est pas juste d'être zen, d'avoir un bon compte en banque. Notre épanouissement, c'est d'être à l'image de celui qui nous a créés et de lui ressembler toujours davantage. J'aime Jésus de Nazareth. Je l'aime, Jésus de Nazareth. Est-ce que vous aimez Jésus de Nazareth ? Alors, c'est pourquoi le bonheur, c'est de ressembler à Jésus. Plus on ressemble à Jésus, plus on se porte bien. Et c'est ce que Dieu vise. Alors, c'est le moule au travers duquel devait passer ce papillon pour qu'il puisse grandir, se développer et enfin devenir cette merveilleuse créature pleine de couleurs qui vole au-dessus des fleurs. Et parfois l'effort est exactement ce dont nous avons besoin dans notre vie. Si on nous permettait de vivre notre vie sans rencontrer d'obstacles, alors qu'est-ce que nous serions ? Nous serions sans limite, nous ne pourrions pas être forts, nous ne pourrions pas voler, nous ne pourrions pas avancer dans la vie. C'est pourquoi je voulais vous dire ce matin, je crois que quelque chose va se transformer en nous. Le Seigneur est vivant et il veut nous transformer de gloire en gloire par la puissance de son Esprit. On a parlé d'une nouvelle saison qui arrive, on a parlé d'une nouvelle année pour Israël, une nouvelle année qui se marque dans le calendrier israélite. On parle aussi d'une nouvelle année scolaire, hein, pour les enseignants, nouvelle année scolaire. Moi je crois que c'est aussi une nouvelle année pour l'église Josué, c'est une nouvelle année. Mais dans cette année nouvelle, Dieu va faire des choses qui vont nous étonner. Dieu va faire des choses qui vont nous toucher. Mais étant touchés, ceux qui nous regardent vivre vont être à leur tour touchés. Et mes amis, nous allons multiplier en nombre. Nous allons nous-mêmes multiplier en qualité. Mais nous allons multiplier en nombre parce que nous serons des lettres ouvertes lues de tous les hommes. Alors, laissez-moi aller plus loin avec vous. Dieu a un plan pour le monde, pour vous, mais il a plus loin que cela. Il a un plan fait sur mesure pour chacune de nos vies. Et oui, la vôtre. La mienne, Dieu a un plan précis. Et je bénis Dieu pour cela. Tu verras le juste, tu entendras les paroles de sa bouche, acte 22, c'est Paul qui entend ces paroles. Et dans presque toutes ses lettres, Paul va manifester son respect de manière identique. Il va parler aux Philippiens, il dira « Paul et Timothée vous saluent de la part de Jésus-Christ ». Or Paul exprimait ainsi une marque de respect envers son Dieu. Et quand il disait, vous avez remarqué, les lettres de Paul commencent toujours par cette phrase « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé ». Que la grâce et la paix. En hébreu, Jésus, c'est Yeshua. Ça veut dire salutation de la part de Yeshua, qui veut dire en grec, loin de l'éternel. Donc, je vais retraduire. Paul dit que Dieu vous bénisse, ou salutation de la part de Yeshua, celui qui est loin. Ça veut dire salutation de la part de celui de Yeshua, celui qui est exalté, qui a reçu l'onction et qui n'est pas simplement un homme, mais qui est le Messie. Salutation de la part du Messie. Et ce matin, le Messie nous salue, mes amis. Ce matin, le Messie nous rencontre dans ce lieu. Et je veux vous dire ceci, à notre époque, petit à petit, le message de la parole de Dieu, le message de l'Évangile, nous éloigne de ce que Ananias a pu dire un jour à Paul. Tout ce que Dieu voulait qu'il fasse, c'est voir le juste. Tout ce qu'il voulait qu'il fasse, c'est vraiment qu'il le rencontre, qu'il le voit, mais en même temps qu'il le suive et qu'il entende sa voix. Et l'homme, malheureusement, veut aider l'homme par l'homme. Combien maintenant, je ne suis pas contre ce que je vais vous dire, mais combien maintenant nous nous réfugions dans la psychiatrie? Combien nous nous réfugions dans les thérapies, dans la psychologie? Nous essayons de résoudre nos problèmes par nos efforts, par nos moyens. Même il y a des gens qui vous disent, mais puise au fond de toi. Comme si c'était nous qui, par nos propres moyens, nous pourrions nous transformer nous-mêmes. Mes amis, mais c'est grave cela. La psychiatrie ne peut pas nous transformer, la psychologie ne peut pas nous transformer, mais quand vous voyez le visage de Jésus, quand vous voyez le visage de Jésus-Christ de Nazareth, qui est appelé le roi des rois, le seigneur des seigneurs, quand vous posez vos yeux sur le juste, alors vous n'êtes plus la même personne. Quand vous posez vos regards sur lui, ce qu'il est, vous le devenez. Comme le soleil, quand il brille, vous allez au soleil, il va toucher votre peau et vous allez commencer à bronzer. On avait une église composée de noirs, ben même au soleil, il bronzait. Moi, je le voyais. Hein, on le voyait mater, c'est vrai. Parce que la peau, est, au contact du soleil, ça change. Mais mes amis, quand on s'approche du roi des rois et du seigneur des seigneurs, on ne ressort pas les mêmes. La gloire de Dieu, elle vient sur nous, elle nous touche, et cette gloire nous transforme. Et ces temps derniers, et hier, j'ai béni Dieu parce que on a vécu un moment très fort dans la présence de Dieu autour d'Ésaïe 6. L'année du roi Ozias, je vis le Seigneur, et les pans de sa robe descendaient dans le temple. Vous connaissez ce passage par cœur. Vous savez, quand il y a la mort de quelqu'un, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous vous rappelez, lorsque Dieu s'est adressé à Josué, il a dit « Moïse, mon serviteur, est mort. Toi, Josué, je t'ai choisi pour que tu conduises mon peuple et que tu le fasses passer le Jourdain dans la terre que j'ai préparée pour mon peuple. Père, terre où coule le lait et le miel. » Il y a une nouvelle saison avec Josué. Il y a une nouvelle saison avec Ozias. Et tout à coup, les séraphins qui volaient l'un à l'autre disaient ceci dans le temps, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, la terre est remplie de sa gloire. » Ésaïe voit cela, Ésaïe entend cela. Et tout à coup, il se dit, « Malheur à moi, pourquoi cela ?» En ce moment, je suis tellement travaillé par la sainteté de Dieu et j'écoute presque pratiquement en boucle un chant en ce moment sur « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Hier, ça a été rappelé, la terre est remplie de sa gloire. Malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'appartiens à un peuple tout entier dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. Alors tout à coup, un des séraphins vint, et alla sur l'autel, prit une pierre, avec une pince, et il toucha les lèvres d'Ésaïe en disant, maintenant, ceci a touché tes lèvres, tu es devenu pur. Et c'est là, simplement là, qu'Ésaïe a pu entendre la voix de Dieu qui disait, « Mais qui marchera pour nous? Qui ira pour nous? Qui marchera pour nous ?» Et Ésaïe de dire, « Me voici, envoie-moi. » Ésaïe n'était plus sous la culpabilité, comme il l'a été quelque temps avant, en disant, « Malheur à moi !» Tout à coup, il se sentait tellement indigne. Mais alors qu'il a été purifié, il y avait cette assurance que Dieu marcherait à ses côtés, que Dieu serait son guide, que Dieu l'enverrait là où Dieu veut qu'il soit. Et lorsqu'il a entendu dire, mais qui marchera pour nous? Qui combattra pour nous? Nous voici. Envoie-moi. Ô Seigneur, aide-nous à présenter Jésus dans nos églises, à présenter Jésus dans nos prédications. Dieu, aide-nous à témoigner, à faire voir Jésus. Aide-nous à présenter Jésus au travers de nos chants, dans nos prières, à faire voir, à montrer Jésus dans notre façon de vivre. Seigneur, nous avons besoin de toi. Et quand on voit Jésus, le juste, on est transformé pour toujours. Alors vous serez changé pour toujours. Et j'essaie de me faire comprendre. Vous dites, mais parfois les gens disent, mais moi j'en ai assez de la religion. Moi aussi d'ailleurs. Vous dites, moi j'en ai assez peut-être d'entendre des sermons, des messages, etc. Ça me fait rien, etc. Moi j'ai envie de vous dire, approchez-vous de celui qui est vivant, de celui qui vous connaît de la tête aux pieds, qui connaît vos cœurs, qui sait lire au fond de vous-même, mais qui vous dit ce matin, j'ai des projets pour toi, des projets de vie et non de malheur. Et quand Jésus va vous toucher, vos priorités vont changer. Après avoir vu Jésus, le jeu n'aura plus le même attrait pour vous. Quand tu auras vu le juste, le roi des rois, ça n'aurait rien à voir avec ce que présentent certaines églises dans les caricatures que vous connaissez. Je ne parle pas d'un Jésus toujours cloué sur une croix et qui n'en est jamais descendu quand on regarde les crucifix, mais je parle d'un Jésus qui est vivant. Je ne parle pas d'un personnage historique, un personnage qui a vécu dans quelques livres d'histoire poussiéreux, mais je vous parle d'un Jésus qui vit aujourd'hui, de celui qui a parlé au travers du buisson ardent. Je vous parle d'un Jésus qui est le cep et qui porte des sarments. Je vous parle d'un Jésus qui est le quatrième homme qui a marché dans la fournaise ardente. Je vous parle d'un Jésus qui est monté au ciel et dont les anges ont dit « Celui que vous avez vu monter au ciel, de la même manière, il reviendra pour venir chercher ceux qui sont sauvés. » Oh, alléluia! Mon Jésus est vivant. Il est au ciel, mais il m'entend. Mon Jésus entend mes prières. Mon Jésus voit que je l'aime, que je veux marcher avec lui. Et ce Jésus, il a brisé les liens, il a brisé les chaînes, il a brisé les affres de la mort. Il peut vaincre la toxicomanie, il peut vaincre la marijuana, il peut vaincre tout ce qui lie les gens dans nos quartiers, dans nos villes, et qui fait du poison et qui empoisonne la société. Parce que Dieu nous a choisis, le Dieu de nos pères t'a destiné. Alors non seulement entendre les paroles de sa bouche, mais Dieu nous parle aussi par son Fils. Tout ce que nous faisons, Dieu nous dit de le faire. J'ai entendu les paroles de ta bouche, Seigneur. Et Dieu a dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin. Et combien je voudrais simplement vous rappeler, acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Guéville, Alléluia. À Bergolsel, à Bolvillers, partout où vous habitez, vous serez mes témoins. Dans la Samarie, en Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et je bénis Dieu de ce que son Saint-Esprit nous a saisi un jour. Qui a le Saint-Esprit en lui-même, en elle-même? Levez la main, tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Levez la main, tous ceux qui peuvent dire ce matin, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alors vous serez les témoins de Jésus. Non pas des témoins qui allaient enfoncer les portes en disant « Repentez-vous, sinon vous allez griller en enfer !» Ça, les gens, quand ils vont vous voir, ils vont dire « Non, ça, c'est de la folie, ça. On ne veut pas suivre des illuminés pareils. » Mais je crois que même si vous ne dites rien, parce que Jésus vit en vous, le rayonnement, il est sur vos visages. Parce que Jésus vit en vous, la gloire de Dieu se voit sur vous. Dans tout ce que vous dites, même si vous ne parlez pas de termes bibliques, simplement vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu. Mais quand vous entrez quelque part, Jésus qui est en vous entre avec vous quelque part. Et il rayonne, et il touche tous ceux qui sont dans la pièce dans laquelle vous entrez. Vous allez au magasin, Jésus entre avec vous dans le magasin, pourtant c'est le temple de Mammon. Jésus rentre dans le temple de Mammon. Il est avec vous et il vous devance. Alors je dis Seigneur, merci Seigneur de ce que ce matin, il nous a choisis et à nous de décider. Est-ce que ce sera l'enfer ou le ciel, la drogue ou la divinité, Jésus ou Satan, il nous a choisis. Le Dieu de vos pères vous a choisis. Ce matin, simplement, c'est tout simple ce que je viens de vous dire, mais c'est tout un programme. Dieu a un plan de vie pour toi. Dieu a un plan parfait pour toi et le Seigneur veut te conduire cette année. Tu l'as prié dans le secret de ta chambre. Un jour, j'ai prié Dieu dans le secret de ma chambre. Personne ne savait quelle était ma prière. Le soir, je vais dans une réunion. Il y avait un gars, je crois que c'était un Asiatique, un pasteur Asiatique. Il a donné une parole de connaissance et en donnant cette parole de connaissance, il reprenait tous les termes de ma prière que j'avais faite dans ma chambre le matin. Le résultat de la prière que j'avais faite dans la chambre ce matin-là, l'exaucement, il est au milieu de nous ce matin. C'est maté. Mais les termes que le gars a prononcés, c'était un étranger. Donc déjà, je comprenais pas son langage, il a été traduit. C'était exactement les mots que j'avais dit dans ma prière le matin en commençant ma journée. Est-ce que vous ne croyez pas que notre Dieu nous connaît dans les moindres détails? Il connaît même tes soupirs. Il sait quand tu en as marre. Il sait quand tu veux tout abandonner, quand tu veux tout lâcher. Peut-être même lâcher sa main. Mais mon Dieu ne le permettra pas. Il viendra à ton secours. Il te parlera d'une façon ou d'une autre. Mais ce matin, je crois que pendant ce culte, que ce soit pendant le moment de louange, pendant le moment de Sainte-Seine, pendant le moment de présentation, pendant le moment du message, quelque part, il y a quelque chose que Dieu a glissé dans ton cœur. Ne repars pas dans ce lieu en abandonnant ce que Dieu t'a donné ce matin, mais place-toi devant lui et rappelle-lui de quelle façon il t'a touché ce matin. Tu es venu dans ce lieu, tu pensais être anonyme, tu pouvais te cacher derrière les autres dans les rangs. Non, Dieu te connaît et Dieu te parle et il te dit j'ai des projets de vie pour toi. J'ai des projets de vie et non de malheur. Tu seras la tête et non la queue. Que Dieu te bénisse. Seigneur, nous voulons ce matin te dire merci parce que tu nous connais entièrement. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que un jour tu nous as rencontrés alors que peut-être nous voulions nous éloigner loin de toi, loin de ta face. Savons que Jonas a fui le plan que tu avais pour lui. Tu désirais qu'il aille à Ninive, il est allé à Tarsis. Mais Seigneur, tu l'as rencontré. Et Seigneur, tu l'as fait avaler par ce poisson et tu lui as permis de réfléchir dans le temple de ce poisson. Et Seigneur, merci de ce qu'il s'est repenti et de ce qu'il a parlé à Ninive en lui enjoignant de se convertir. Et Seigneur, beaucoup de gens ont été sauvés parce que tu as envoyé ton envoyé. Eh bien Seigneur, ce matin, nous sommes là devant toi. Et nous te disons merci parce que ton regard se pose sur nous. Rien n'échappe à ton regard. Tu connais la moindre parole avant même que nous ne la prononcions, tu la connais entièrement. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, tu connais nos faiblesses, tu connais nos tracas, tu connais aussi nos péchés. Mais ce matin, ton amour nous submerge. Tu es celui qui nous aime d'un amour extraordinaire. Et combien on veut te remercier ce matin parce que malgré ce que nous sommes, tu nous aimes intensément. Et mon désir, ma prière ce matin, c'est que tu nous secoues, que tu nous remues les uns et les autres, pour que nous puissions emprunter le chemin que tu as prévu, chemin de bénédiction, pas pour nous-mêmes simplement, parce que tu veux rencontrer plein de personnes au travers de nous, au travers de nos vies. Alors Seigneur, conduis-nous. Je veux bénir ce matin l'église Josué et demander Seigneur d'ajouter à cette église tous ceux qui te rencontreront, tous ceux qui, sur le chemin, aujourd'hui t'ignorent peut-être, sont là chez eux ou sont en train d'avoir des projets de week-end et sont même dans leurs projets de week-end. Mais Seigneur, tu connais déjà leur cœur. Tu as un plan pour eux. Mais un jour, Seigneur, ils rejoindront ceux qui sont appelés ton église, ceux qui forment ton corps dont tu es la tête. Alors je bénis l'église Josué en te demandant, Seigneur, que cette église puisse prospérer, qu'elle puisse briller de plus en plus fort dans les ténèbres, qu'elle soit un phare dans les ténèbres, un phare dans cette ville, un phare dans cette région. Et Seigneur, que cette église puisse toucher les frontières, comme on a vu hier, l'Allemagne, la Suisse, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous croyons, Seigneur, que pour chacun de nous, il y a des projets que tu as prévus. Alors Seigneur, nous te faisons confiance et nous te disons merci parce que tu nous as parlé, comme tu as parlé à Saul de Tarse. Et Seigneur, que tu l'as réveillé de sa torpeur, et tu l'as réveillé de cette décision qu'il avait prise de servir d'une certaine façon qui n'était pas la tienne. Mais tu l'as remis sur le droit chemin et tu as fait de lui quelqu'un d'extraordinaire, l'apôtre Paul. Alors Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Elle ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet, sans avoir accompli ce pourquoi elle avait été envoyée. Et je te remercie, Seigneur, parce que tes voix ne sont pas nos voix et nos pensées ne sont pas tes pensées. Et je te remercie, Seigneur, de ce que tu nous rallies à toi, tu nous accroches à toi. Et Seigneur, ce matin, nous nous accrochons au char du vainqueur. Et Seigneur, nous disons à toi la gloire. Tu es digne, Seigneur, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci.